pour ta sainte et divine présence, mon Dieu. Tu agis parfois de façon mystérieuse. Et merci, Seigneur, d'avoir agi et guéri au milieu de nous et délivré. J'ai donné hier soir cette parole de connaissance, disant qu'une personne ici est accablée d'angoisse. Elle passe d'une nuit blanche à l'autre, j'ai dit ça hier soir. L'insomnie est monnaie quotidienne courante dans ta vie. Je te fais sortir de la prison de l'angoisse. Tu étais en prison enchaînée. Et à mon ordre, tes chaînes tombent et tu sors libre de ta prison. C'est ce que j'ai dit hier soir. Eh bien, au milieu de nous, le Seigneur a fait cela. Il y a une dame qui s'appelle Claudette, tu veux te lever? C'est elle que le Seigneur a touchée hier soir. Ça fait 30 ans qu'elle souffre de dépression nerveuse, sous médicaments les plus forts, insomnie, en tranquillisant, antidépresseurs, pendant 30 ans. Et merci Seigneur. Oui, dites-moi. Elle a dit chez ses amis avant de venir, qu'elle attendait un miracle. Ils l'ont amené. Elle a eu son miracle. Alléluia! Alléluia! Il est au milieu de vous comme un héros qui délivre. Un héros qui sauve. Un héros qui délivre. Et puis, ce qui s'est passé, elle ne pouvait pas rendre témoignage hier soir, mais elle a été touchée hier soir. C'est que elle a passé une nuit comme elle n'a jamais passé. Sans aucun médicament, alors qu'elle en prenait depuis 30 ans. Et comme un bébé, elle a dormi, c'est ce qu'elle dit. Alléluia! Alléluia! Au Seigneur, gloire! Il est le Seigneur pour toutes les victoires. Et par la même occasion, je vais parler d'une autre délivrance qui est semblable. Et qui, elle est aussi au milieu de nous, c'est Joël. Tu veux te lever, Joël? Joël souffrait aussi. Tu veux dire quelques mots toi-même? Non? Tu veux que je le dise? Elle m'a donné son témoignage écrit, je vais parler pour elle. Elle souffrait de fatigue qui s'appelle asthénie neurasthénique. Depuis 20 ans, elle est arrivée chez nous, elle était complètement épuisée, elle a même dit en arrivant, je crois que elle avait peur de tomber dans l'inconscience, dans le coma. Elle était surmenée, complètement à bout. Et cette asthénie neurasthénique était provoquée par des tas de chocs émotionnels répétitifs et d'énormes soucis familiaux qui ont usé tout son système neurologique depuis 20 ans. Et puis, cette fatigue provoquait un état d'épuisement intense, une fatigabilité constante qui l'empêchait de faire normalement son travail. Et elle a 4 enfants à la maison. Dès le matin, elle disait, pendant toutes ces années, elle se sentait complètement fatiguée nerveusement. Et plus la journée s'écoulait, plus son mal s'intensifiait. Même le fait de respirer la fatiguait. Ça vous dit quelque chose, ça? Même le fait de respirer, le fait de dormir, empirait ce mal. Bien sûr, la médecine a aidé. Elle prenait 4 antidépresseurs, 4 anti-anxiolytiques par jour. Cela ne faisait que calmer, bien sûr, pas guérir. Ça a soulagé, ça a aidé un peu. Et puis, elle est venue chez nous à un de nos cultes mensuels. Elle vient de derrière chez Grenoble, Lamure, hein, par là. Ça fait des kilomètres à faire, mais là aussi, il y a un prix à payer. Mais elle est fidèle, elle vient. Et puis elle vient nous aider aussi avec son sainteté. Et puis, pendant cette réunion, ce culte chez nous, le Seigneur m'a donné la parole de connaissance suivante, sans que je la connaisse, parce que c'était le début de qu'elle venait chez nous. Et j'ai dit, de la part du Seigneur, toi qui es fatigué, lassé de combattre, je m'approche aujourd'hui de toi afin d'augmenter ta vigueur. Voilà ce que le Seigneur a dit. Je donne la force à celui qui est fatigué. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Alléluia. Et là, le Seigneur a touché. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elle dit elle-même? Elle dit, depuis ce fameux dimanche, je n'ai plus le moindre signal d'alarme. C'était quand ça? Le 18 mai l'année dernière. Hein, c'est ça? Depuis ce fameux dimanche, je n'ai plus le moindre signal d'alarme ou d'asthénie. Ma vitalité est revenue et je respire à nouveau normalement. Je n'ai plus eu la moindre crise d'angoisse. Et je loue mon Dieu car sa paix a envahi mon cœur. Et je suis pleine de gratitude envers celui qui nous aime. La peur est partie et mon être est enfin reposé. Quel repos! Quel repos! Le divin repos. C'est quand même merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Merveilleux. Merveilleux vraiment. Et il vient nous chercher dans le pire des trous. Quand nous sommes vraiment à bout, complètement au bout du rouleau. Merci Seigneur. C'est vrai pour Claudette. C'est vrai pour Joël. Et merci Seigneur pour ces deux dames qui ont fait une expérience similaire. Tellement glorieuse pour toi Seigneur. Tellement glorieuse. Et maintenant, je voudrais parler de quelque chose que j'ai vécu d'un peu particulier, que j'ai vécu à la Martinique. Je faisais une réunion avec les femmes parce que le Seigneur m'a confié ce ministère d'enseigner les femmes et les femmes de pasteurs un peu partout dans le monde. Et j'étais à la Martinique, je faisais une réunion de femmes. Et à la fin de ma réunion, je donnais les paroles de connaissance et tout cela. Et le Seigneur agissait. Mais était en route pour une de ces réunions une femme qui était au bout du rouleau aussi, pour une autre raison. Vous allez voir. Elle est venue, elle a demandé à son mari de la conduire parce qu'elle ne pouvait pas conduire. Et en route avec son mari, elle a eu une dispute très violente dans la voiture. Et comme elle était déjà au bout du rouleau à cause de problèmes conjugaux, elle a ouvert la porte de la voiture en pleine marche et elle s'est jetée dehors, sur la chaussée. Elle pouvait être tuée sur le coup parce que la voiture allait vite. Mais le Seigneur avait sa main sur cette femme. Et puis, cette femme est arrivée en retard à la réunion, je me rappelle bien. D'un seul coup, quelqu'un est entré, une autre dame avec elle aussi. Et à peine entrée, le Seigneur, par ma bouche, a dit « Toi qui viens de vouloir te suicider. » Comme ça. « C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Maintenant, je veux que tu viennes à moi. Je t'ai donné rendez-vous ici. » Et cette femme, elle était seulement égratignée. Égratignée, un peu. Comme on fait quand on se frotte quelque part un peu, mais vraiment pas méchant. La jambe et le bras. Mais on voyait ce qu'elle avait fait quand même. Ça montrait que c'était vrai. Et puis la dame qui était avec elle aussi a témoigné de la véracité de cette chose-là. Et alors là, quand cette parole est venue, elle a craqué. Elle s'est mise à pleurer devant tous. Et ce soir-là, elle a donné sa vie aussi. Alléluia! Alléluia! Oh Seigneur, tu viens nous chercher dans les cas les plus désespérés, les plus terribles, les plus terribles. Et après, j'ai pu l'exhorter à la fin à pardonner à son mari. Maintenant qu'elle a reçu le pardon de Dieu, elle était capable ensuite de pardonner à son mari. Chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et le Seigneur connaît tout, mais il agit comme dans un puzzle. Il met chaque pièce à sa place. Et il fait les choses en son temps et à son heure et de la façon la plus merveilleuse qui soit, la plus parfaite. Ses plans sont absolument parfaits. Il ne se trompe pas. Et il ne vient jamais en retard. Nous, on est toujours en retard. On court toujours et on est toujours en retard. Lui, jamais. Jamais. Parfois, il nous fait attendre, mais il sait pourquoi il nous fait attendre. Et puis, je voudrais parler aussi pour encourager les mamans ici qui attendent des fils prodigues qui doivent revenir à la maison. Nous étions au Canada dans une certaine église quand le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance disant « Il y a une dame ici qui attend depuis des années des nouvelles de son fils. Et je ne sais plus combien de nombre d'années, elle n'avait plus eu de nouvelles de son fils. Et là, elle était à la réunion. Et le Seigneur a dit, par cette parole, « Ton fils est sur le chemin du retour. Il va frapper à la porte, il va venir. Il faut que tu l'attendes de la bonne façon. Je te demande de lui ouvrir tes bras et de l'accueillir chaleureusement en mon nom et d'oublier toute la souffrance qu'il t'a causée derrière. » Qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous dire. Ça m'a moi-même étonnée que ça aille si vite parce qu'il y avait des années, je vous dis, je ne sais plus, 6, 8, 10 ans, mais un nombre d'années est assez impressionnant. Le lendemain, ce fils a frappé à la porte. Le lendemain, pas 10 jours après, pas 15 jours, le lendemain. Alléluia, Seigneur. Et il est revenu et il a demandé pardon à sa maman. Et sa maman était préparée par le Seigneur, a pu l'accueillir. Les bras ouverts, le cœur ouvert, prête à lui pardonner. Et le fils avait aussi été préparé par le Seigneur. Et il est rentré avec un cœur repentant, demandant pardon à sa mère. Et les deux, une merveilleuse réconciliation. Je ne vous dis pas cette femme le lendemain à la réunion. Elle était bouleversée, complètement. Ça faisait des années, je vous dis. Alors des années, rendez-vous compte, des années. C'était presque un rêve irréalisable pour elle, qui est devenu réalité du jour au lendemain. Quand c'est l'heure du Seigneur, il n'arrive jamais en retard. Que son nom soit loué. Nous voulons le bénir ensemble pour tous ces témoignages et toutes ces réalités, pour les deux dames ici, pour celles que je viens de parler, Seigneur. Louange, gloire et puissance à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es pour nous un héros qui sauve, un héros qui délivre, un héros qui guérit. Seigneur, tu as fait tant de choses pour nous et nous voulons te dire un grand et profond merci de tout notre cœur. Sois loué, Seigneur.
Merci.
Amen.
Oui, Seigneur, un grand merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore. Que nos cœurs soient toujours ouverts à tes grâces. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. C'est nous qui changeons, mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais Seigneur, toi, tu restes le même. Aide-nous tout simplement à le croire, simplement, comme de petits enfants, afin de voir ta main à l'œuvre et de pouvoir encore te bénir et te louer. Seigneur, tu n'as pas fini d'agir dans nos vies. Nous voulons te laisser la possibilité encore de le faire, en restant ouvert à ton amour, à ta fidélité, à tes grâces et à tes dons. Et pour tout ce que tu fais et feras, à ton nom soit toute la gloire. Amen.
Amen.
Alléluia. Donnons toujours gloire au Seigneur quand il fait quelque chose. Lui seul en est digne. Lui seul mérite notre louange et notre adoration. N'est-ce pas merveilleux? Des interventions divines, on pourra en parler pendant des heures ensemble, des heures. Dans nos campagnes d'évangélisation, si en Afrique, si on commence maintenant, on ne s'arrête plus.
C'est vrai.
Mais j'ai vu que notre Seigneur est plein de compassion.
C'est vrai. C'est vrai.
Il n'est pas du tout celui que nous pensons. Souvent, par nos pensées limitées, négatives à son égard, nous le déshonorons. Et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on voit les choses du point de vue humain, mais nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole, de nourrir de cette parole de Dieu, pour être transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Amen. Nous avons besoin que nos pensées soient renouvelées, comme Paul dit dans Romains 12, d'être transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Un auteur chrétien a dit ceci un jour, je l'ai lu, les chrétiens ont un cœur nouveau, mais une vieille tête. Ils ont un cœur nouveau, ils sont nés de nouveau, mais ils raisonnent encore comme autrefois. Lorsqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, leur façon de raisonner, de comprendre le Seigneur est la même chose, est la même. Pourquoi? Parce qu'on ne se nourrit pas assez de la parole de Dieu. D'où l'importance pour chacun d'entre nous. Si nous voulons rester remplis de l'Esprit, nous devons être remplis de la parole. Les deux sont liés. Tu ne peux pas rester un chrétien rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas rempli de sa parole. Ceci est capital. Ne faisons pas comme une fois je l'ai vu en Suisse dans une église. On est allé à un culte, nous étions invités à un culte. Et là c'était spécial, jamais j'avais vu ça. C'était au 2e-3e étage d'une maison, comme une chambre haute, mais une drôle de chambre haute. Et en rentrant à gauche, il y avait des rayons comme cela. Et c'était pour placer les Bibles. Et ce que j'ai remarqué à la fin de la réunion, la plupart des chrétiens ont mis dans ces rayons leur Bible et leur cantique. Et après, ils sont tous partis. Ah, j'ai dit, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'on lit à la maison alors? Paris Match? Nous deux? C'est pour ça qu'ils sont en quatre. Est-ce que c'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse, ça? Ça, c'est le secret d'une catastrophe annoncée. Il n'y a pas besoin d'être un prophète pour cela. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est sûr.
Il n'y a pas besoin de vous donner une prophétie pour dire que la catastrophe n'est pas loin. Peut-être que tu as ta Bible à la maison, toi. Mais est-ce que tu la médites vraiment? Tu ne comptes que sur le pasteur ou un prédicateur. C'est un tort.
C'est vrai.
Les autres sont là pour t'aider, tout à fait. Les ministères sont là pour cela. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Mais cela ne doit pas remplacer ta méditation personnelle.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Tu dois prendre du temps. Mais tu dis, moi, je comprends pas tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu lis simplement. C'est la parole de Dieu. Tu la lis. Tu acceptes ce que tu comprends. Le reste, tu comprendras plus tard. Et même si tu ne comprends pas tout, ben tu comprendras là-haut. Mais en attendant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle pénètre ton esprit. Et sans que tu t'en rendes compte, tes pensées changent. Tu commences à penser comme la parole de Dieu pense. Tu commences à parler comme la parole de Dieu parle. Ceci est important. Entendre certains chrétiens, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ou alors ils ont tout renié. ou alors ils ont tout abandonné. Leur raisonnement n'est plus biblique. Et ils sont étonnés d'être dans des difficultés incroyables. D'où l'importance pour chacun d'entre nous d'être comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient tout ce qu'ils entendaient, même les enseignements de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, certains prédicateurs veulent nous faire croire qu'il est interdit de contrôler leurs prédications. Eux, ils ne se trompent jamais. Ce sont des prophètes, entre guillemets. Et vous n'avez pas le droit de contester quoi que ce soit et de toucher au oint de l'Éternel. Oint, entre guillemets. Vous n'avez pas entendu cette expression, ne touchez pas au oint de l'Éternel. Et vous savez qu'on prend ce passage, encore une fois, comment est-ce qu'on le prend? En dehors de son contexte. Je ne vais pas en parler là-dessus maintenant, mais c'est dans l'Ancien Testament, il était question de David, qui n'a pas osé mettre la main sur l'oint de l'Éternel, sur Saül. Mais l'expression « mettre la main », c'était une expression qui voulait dire « tuer Saül ». Je ne porterai pas ma main sur l'oint de l'Éternel, je ne veux pas le tuer. C'était donc un acte physique. Tandis que maintenant, on prend ça comme un acte spirituel. Et alors avec ça, vous vous rendez compte? On peut dire n'importe quoi. On peut faire dire n'importe quoi. Et en général, c'est toujours à sens unique, cela. Ceux qui disent cela, c'est pour qu'on ne les corrige pas, contrôle pas. Mais eux, quand ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, ils n'adoptent pas le même système. Quand c'est un autre prédicateur, alors là, je vous assure qu'ils ne l'arrangent pas. Mais l'autre, c'est aussi un moyen de l'Éternel. Pourquoi tu en fais ce que tu veux? Ça marche qu'à sens unique. Donc c'est bien pour dire que tout est intéressé et souvent de la manipulation. N'est-ce pas vrai? Une autre pensée, puisqu'on en est là, je ne pensais pas vous dire tout cela. Mais comme c'est la dernière réunion, il faut que je vous dise certaines choses. Vous savez, quand on vous dit, par exemple, donner, beaucoup de prédicateurs de la prospérité, ils disent donnez, vous verrez combien Dieu va vous bénir financièrement, et Dieu va vous donner des ministères, un ministère puissant, donnez. Ça marche tout avec l'argent. Mais écoutez-moi bien, s'ils y croyaient vraiment, eux, ils n'auraient pas besoin de demander quoi que ce soit. Au lieu de demander aux réunions, c'est eux qui commençaient à donner pour recevoir du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Mais ça, il ne faut pas. C'est qu'à sens unique, ça aussi. Donc c'est de la manipulation. C'est de la tricherie, de la tromperie. S'ils croyaient vraiment, ils ne feraient aucune demande. S'ils croyaient vraiment que, comme ça, en poussant les gens à donner, eh bien, Dieu leur donne automatiquement, eh bien, ils le mettraient en pratique lui-même. Mais il ne le met pas en pratique parce que ça ne marche pas. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont ainsi arnaqués, carrément, et vivent ensuite de grandes difficultés financières. Mais ces chrétiens aussi ont une responsabilité, écoutez-moi bien, c'est parce que aussi vous êtes égoïste, c'est parce que aussi on aime entendre quelqu'un qui vous dit « si tu donnes, tu seras béni, tu auras un ministère extraordinaire. À partir de maintenant, tu vas voyager le monde entier. » Ça plaît à certains chrétiens. Et ils sont prêts même à ouvrir tout le porte-monnaie. Ah bon, il y en a un qui a fait ça, c'est Simon le magicien. Il a ouvert son porte-monnaie aussi. Donnez-moi la puissance, cette puissance que vous avez. C'est très dangereux. Vous voyez, le prédicateur lui-même est à reprendre, le chrétien aussi est à reprendre. Parce que la convoitise est en lui, l'orgueil est en lui. Tout cela, ce sont des avertissements. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus assez leur Bible et se laissent ainsi culpabiliser, manipuler par beaucoup de soi-disant apôtres et prophètes qui font ce qu'ils veulent, qui disent n'importe quoi. Et la première preuve que ce ne sont pas vraiment des vrais apôtres et des vrais prophètes, ce qu'ils disent n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui viennent avec des nouvelles révélations. Dieu m'a révélé que. Et ils viennent avec des nouvelles visions. Mais leurs visions ont besoin de révision. Beaucoup de révision. Parce que leur vision n'est pas conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Leur nouvelle révélation n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jude chapitre 3. Que dit Jude aux chrétiens? Il leur dit de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Souligner une fois pour toutes. Jude 3. Le mot une fois pour toutes a un sens très précis. C'est un mot grec apax qui veut dire cette foi qui a été transmise aux chrétiens a été donnée une fois pour toutes. C'est définitif. Plus rien n'a rajouté. Plus rien n'a retranché, mais plus rien n'a rajouté. S'ils étaient vraiment prophètes, ils connaîtraient cela. Et Dieu leur parlerait en disant, hé, attention, tu es en train de rajouter quelque chose. Ou le Saint-Esprit a dit, c'est terminé, on ne rajoute plus rien. On doit rester dans cette parole, cette révélation
Amen.
Maintenant.
Amen.
Dieu met des limites à notre foi. Amen.
Amen.
Dieu doit mettre des limites, s'il n'y a pas de barrière. Alors qui peut être contrôlé? Plus personne. Plus personne ne peut être contrôlé. Tout le monde peut venir. Moi j'ai une vision par-ci, une vision par-là. En général j'ai des visions d'anges aussi. Et certains chrétiens quand ils entendent parler d'anges, ça y est, ils tournent la tête. T'as vu? Extraordinaire! Jamais on n'avait des choses.
Ah bon?
Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Et ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Ou alors des textes bibliques qui sont pris hors de leur sens. Et on tord ainsi les Écritures. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion aujourd'hui. Toronto est passé. Pensacola est passé. Mais la séduction demeure toujours, mes amis. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne pensais pas vous parler là-dessus maintenant. Mais il faut que je parle dans ce domaine maintenant. C'est fini. Toronto est passé. Pensacola est passé. Ces séductions, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Alors il y a une leçon à retirer de tout cela. Si ceux qui sont tombés dans ces hérésies, dans ces fausses doctrines et ces fausses manifestations spirituelles ne se sont pas repentis devant le Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? La porte est toujours ouverte dans leur cœur à toutes les nouvelles hérésies, les nouvelles séductions qui viendront encore. Vous pensez que c'est terminé? Après ça, il n'y a plus rien? Détrompez-vous! Ce sera pire! Comment? C'était déjà pire! Il y a encore pire que le pire! Il y a pire que le pire! Alors si on ne s'est pas repenti de ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? La porte est toujours ouverte. La prochaine séduction, ce sont les mêmes personnes qui tombent dedans. Et c'est ainsi qu'ils sont séduits, ils tombent d'une séduction dans une autre séduction. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous le savez vous-même, quelle confusion! Quelle confusion! Nous devons être ces chrétiens de Béret. Acte 17, 11. Vous connaissez ce passage? Allez, on va lire un texte. Acte 17, 11. Acte 17, 11. Tous les chrétiens devraient connaître ce verset par cœur. Acte 17, 11. Acte 17, 11. Voici ce qu'il est dit. 17, 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas au Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est un verset extraordinaire. Et le verbe examiner veut dire passer au crible. Le verbe là est très important. Ça veut dire passer au crible. tout ce qu'ils entendaient passait au crible de la parole de Dieu. Mais si vous ne la connaissez pas, la parole, vous allez vous faire prendre. Et voilà pourquoi certains chrétiens se font prendre. Voilà pourquoi un chrétien qui ne supporte pas la saine doctrine ou des messages vraiment d'enseignement, c'est un très mauvais signe de santé spirituelle. Très mauvais signe. Cela veut dire que le chrétien n'aime pas la doctrine. Mais c'est dans la doctrine que l'on découvre l'enseignement de Dieu. Et cet enseignement doit être caché en nous. De telle sorte que lorsque vous entendez quelque chose qui n'est pas biblique, tout de suite en vous, il y a quelque chose qui dit, mais attention, Pierre, Jacques ou Jean n'ont pas dit ça. Le Saint-Esprit peut vous mettre en, tout de suite à la mémoire tel ou tel verset. Mais si ces versets ne sont pas là, si ces versets ne sont pas dans votre cœur, si nous sommes paresseux, vous croyez que le Saint-Esprit va encourager les paresseux? D'où l'importance d'examiner, de passer au crible et de connaître la parole de Dieu, d'être au courant des doctrines bibliques, la justification, en parlant déjà de la repentance, la foi, la justification, la rédemption, la sanctification, toutes ces choses, ce sont des doctrines bibliques que tout chrétien doit connaître, j'allais dire presque par cœur. Toutes ces choses, nous devons les maîtriser. Parce que lorsque nous entendons toutes ces nouveautés, c'est dans ces domaines-là qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est là qu'il y a des failles. Et si nous-mêmes, nous ne connaissons pas bien cette parole, nous allons penser, mais voyez bien, il a prêché la parole, combien de fois on l'entend? Mais il a prêché la parole. Oui, il y avait peut-être 90% de la parole, mais il y avait 10% de poison. Et vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Les chrétiens, vous savez ce qu'ils disent? Oui, il a prêché la parole, c'était bien. Mais ils ne retiennent pas la parole. Parce qu'ils disent, on la connaît. Ils retiennent les 10%. Et ces 10% sont justement le poison.
Et voilà, le levain.
Parce qu'ils disent, c'est extraordinaire, ça, on connaît la Bible, c'est bien. Mais lui, voilà. Et vous voyez, la séduction est là. Puisqu'il prêche la parole, donc le reste est juste aussi. Regardez. Déjà là, un faux raisonnement. Ça ne veut pas dire parce qu'il a prêché 90% que les 10 autres % sont forcément justes et qu'il ne faut pas contrôler. Il faut tout contrôler. Amen. Et c'est pourquoi il est important, celui qui n'aime pas la saine doctrine, qui ne la médite pas, qui ne cherche pas à comprendre les vérités de base, ce n'est pas nécessaire d'être un théologien, mais il est nécessaire de prendre du temps pour connaître ces vérités de base. C'est important, comme ces juifs de Bérée, ils examinaient, ils passaient à la loupe, au crible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, c'est les pharisiens qui vont comme ça. Et c'est dans ces soi-disant réveils, tous ceux qui s'opposaient à ces choses-là, on les a considérés comme des pharisiens, vous rendez compte? Des gens qui manquent d'amour. Et on nous disait même qu'il fallait mettre son intellect de côté. Et la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Dans ces millions de Dieu, ne réfléchissez pas. Croyez tout simplement. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. On peut aussi l'aimer avec sa pensée. Cela veut dire que dans ta pensée, il doit y avoir les pensées de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais si cette parole n'est pas là dans tes pensées, tu seras séduit comme tout le monde. Comme tout le monde. D'où l'importance de veiller à cela, d'examiner les Écritures, même si c'est un apôtre Paul. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a mis ce texte-là, pour bien montrer que le plus petit chrétien a le droit de contrôler le plus grand prédicateur.
Amen.
Il a le droit de le faire, selon la parole de Dieu. Tandis que maintenant, ces soi-disant grands prédicateurs, entre guillemets,
ils vous font croire que si vous n'acceptez pas ce qu'il vous dit, vous êtes un rebelle, vous êtes un mauvais chrétien, et que vous doutez de son ministère. Ah, parce que son ministère est plus important que je ne sais quoi.
Et nous en sommes là, n'est-ce pas vrai?
Nous en sommes là aujourd'hui. Mais ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact, exact.
Alléluia. Moi j'aime quand un prédicateur, même un chrétien vient me dire ça, mais voilà, pas d'accord.
Bon?
Pas d'accord?
Et alors?
Ah oui, mais moi j'ai lu un bouquin. Ah non, c'est pas le bouquin qui compte. Il y en a qui sont pas d'accord, parce qu'ils ont lu un bouquin. Et dans ces bouquins, on voit, on lit beaucoup de choses. Là, je l'accepterai pas. Mais si tu veux venir me voir, il faut venir avec la parole de Dieu. Et si tu dis que là, tu as dit exactement le contraire, ou alors c'est pas... Je suis prêt, le premier, à l'accepter. Le premier. Et je remercierai même ce chrétien en lui disant, c'est bien, fais cela, continue de faire cela. Vérifie, examine. N'accepte pas, les yeux fermés, ce qu'on te prêche. Et je lui dirai, c'est très bien ce que tu fais. Et là, moi j'ai appris une leçon. Effectivement, là je dois faire attention. Là, il faut que je m'examine. Il faut que je sois plus près des Écritures. Et c'est cela. C'est ainsi qu'on avance. Amen. C'est ainsi que le prédicateur est contrôlé et le chrétien, lui, peut vraiment s'épanouir et ne pas se laisser entraîner à tout vent de doctrine. Le chrétien a le droit de faire cela. Mais aujourd'hui, on enlève ce droit au chrétien. On lui dit qu'il n'a pas le droit. C'est un manque de confiance dans le prédicateur. Et bien souvent, le prédicateur a pris la place du Seigneur lui-même dans la vie de beaucoup de chrétiens. N'est-ce pas une tragédie? Le rôle du prédicateur, d'un ministère, est d'attirer les gens vers Jésus, non pas vers lui-même.
Amen.
Voilà un vrai ministère.
Amen.
Un vrai ministère vous attache à Jésus.
Amen.
Et non pas lui-même. Tandis que certains ministères font de telle sorte qu'ils se rendent indispensables. Et ils vous font sentir que sans eux, vous êtes perdus. Vous êtes un nul, vous ne savez rien du tout. Et ils vous font bien sentir cela. Comme pour dire, ah bon, on ne peut même plus lire la Bible, on ne sait même pas lire la Bible de travers. On est, non, je ne sais pas, ça c'est plus du français, on ne sait même plus que... Ah oui, je ne sais même plus lire. On vous culpabilise, on vous fait croire que vous ne pouvez pas lire ces paroles simplement. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Nous en sommes là. Si tu veux rester rempli du Saint-Esprit, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai?
Amen.
C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Autrement dit, ce qui a été dit là vient du Saint-Esprit. Plus tu es rempli de cette parole qui vient du Saint-Esprit, plus tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais si tu es rempli des paroles d'hommes, des révélations même humaines, n'importe quelle vision, ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est du vent. Mais s'il y a une leçon que nous devons apprendre, chacun d'entre nous, revenons à la source, la parole de Dieu. Et là, redécouvrons tout ce que Jésus, ses apôtres, nous enseigne. C'est là qu'est notre sûreté et c'est là qu'est notre sécurité. Que le Seigneur mette en nous cette soif de sa parole. Il y a aussi des bons livres à lire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Nous devons examiner tout cela aussi. Mais dès que quelque chose n'est pas conforme à la parole, vous devez la mettre de côté. Ceci est capital. Et ne pas vous laisser intimider par qui que ce soit. Par un titre ou un sous-titre, par beaucoup de choses. On veut très souvent impressionner les chrétiens. Ne vous laissez pas. Vous avez été libéré à un grand prix. Que personne ne vous remette sous cet esclavage des hommes ou des traditions humaines. Le Seigneur a payé un grand prix pour vous rendre libre. Pourquoi crains-tu encore l'homme? Il y a trop de chrétiens qui craignent encore plus l'homme.
C'est vrai.
Que le Seigneur.
C'est vrai.
Plus la parole soit disant une révélation d'homme que la parole de Dieu. ça existe encore. Suivre ce chemin, et je vais terminer. Suivre ce chemin, c'est le chemin étroit. Comme Jésus a été rejeté, critiqué, et les apôtres aussi, vous serez aussi incompris, calomnie, critiqué. Mais peu veulent prendre ce chemin-là. Et si tu veux rester fidèle à ton maître, c'est le seul chemin. Le chemin étroit, c'est le seul chemin sûr. Le seul chemin qui te conduira à la vie éternelle. Et c'est sur ce chemin que Jésus se trouve, pas sur un autre. Parce que Jésus est toujours près de sa parole. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Puisse le Seigneur, à la fin de cette convention, nous donner de réaliser combien la parole de Dieu est importante. Dans ces temps de la fin, où la confusion ira encore plus en grandissant, nous devons tous être instruits, renouvelés, lire. Et si on ne comprend pas quelque chose, poser des questions. Poser. C'est important. Mais qu'on ne se laisse pas intimider par quelqu'un qui veut vous fermer la bouche. Et vous faire croire que vous péchez même contre Dieu parce que vous dites non à sa parole. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? C'est grave. On prend la place même de Dieu dans le cœur d'un chrétien. Ce n'est plus l'amour qui inspire, c'est la crainte, la domination. Il est temps de revenir simplement à la parole de Dieu et que chaque chrétien examine. Passe au tri de cette parole, mais pour la passer, il faut la lire, il faut la méditer. C'est important. Tu ne seras jamais un chrétien victorieux si la parole de Dieu, tu ne t'en nourris pas. Si c'est quelque chose qui t'embête ou qui te lasse, c'est un signe de mauvaise santé spirituelle. Très mauvais signe de santé spirituelle. Que le Seigneur nous donne ainsi d'être ferme dans sa parole, la méditer, de tout vérifier d'après cette parole de Dieu. Et nous serons vraiment remplis du Saint-Esprit. Et si nous ne savons pas tout, mais que nous aimons cette parole, le Seigneur nous aidera. Il nous aidera par l'un ou par l'autre, parce qu'on a besoin les uns des autres, n'est-ce pas vrai? C'est ça l'Église, c'est un corps. On a besoin. Ce que vous n'avez pas compris, moi je peux vous aider. Et les autres peuvent, d'autres personnes peuvent vous aider. Et on s'aide ainsi mutuellement, n'est-ce pas vrai? Moi j'apprends aussi beaucoup d'autres prédicateurs qui marchent dans la vérité. J'apprends beaucoup. Et je lis aussi beaucoup. Mais je fais un triage. Je suis obligé de faire un triage, comme vous devez le faire aussi. Ceci pour dire que nous avons tous besoin les uns des autres. Et que quand quelque chose ne va pas, il faut avoir la liberté de poser des questions à des personnes de confiance qui aiment la vérité par-dessus toute autre chose. Amen.
Amen.
Et ne pas nous vous laisser museler par quelqu'un qui veut mettre le grappin dessus. En vous faire croire que, en faisant croire que si vous posez une question à quelqu'un d'autre, vous péchez contre le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne de réaliser que nous sommes des gens libres, des personnes libres. Amen.
Amen.
Il nous a racheté un grand prix.
Amen.
Maintenant, servons, aimons le Seigneur de tout notre cœur et aimons sa parole aussi.
Amen.
Qu'elle soit vraiment notre nourriture. Alléluia.
Amen.
Que son nom soit béni. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole.
Alléluia.
Merci parce que ton esprit est là pour confirmer cette parole, non pas pour confirmer n'importe quoi, mais pour confirmer la parole de Dieu. Fais-le, Seigneur, et tu le confirmeras aussi dans la vie de tes enfants. Là où ils s'attachent à ta parole, Seigneur, tu la confirmeras, tu les aideras, tu leur feras du bien, tu les consoleras. Ô Seigneur, aide-nous à redécouvrir l'enseignement de ta parole.
Amen.
Comme ces Juifs de Bérée.
Amen.
Et nos vies en seront transformées.
C'est vrai.
Nous serons vraiment nourris.
Amen.
La nourriture des forts.
Gloire à ton nom.
Ô Seigneur, redonne-nous cet amour de ta parole et de la vérité.
Mm-hmm.
Et c'est ainsi que nous découvrirons la puissance du Saint-Esprit,
Amen.
Qui est toujours près de sa parole,
Amen.
Pour l'illuminer, l'éclairer,
Alléluia,
et l'appliquer dans notre vie.
Amen.
À toi seul soit toute la gloire,
Amen.
Dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Restons dans le recueillement encore, jusqu'à présent.
Je ne savais pas sur quoi Samuel allait parler, mais la semaine dernière déjà, le Seigneur m'a précisément donné deux messages pour deux serviteurs de Dieu ici présents. Je ne savais pas qu'il allait parler aux serviteurs, des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur s'adresse à un serviteur ici qui a tendance à se décourager en voyant le travail des autres serviteurs. Et le Seigneur te dit, mon serviteur, c'est moi qui t'ai appelé à mon service. Et je t'ai moi-même donné des capacités particulières pour le ministère que je t'ai confié. Tant que tu chercheras à me glorifier et à bénir ceux que je t'ai confiés, tu n'as aucune raison, mon serviteur, d'avoir honte du travail que tu fais. Je t'ai donné des aptitudes particulières que beaucoup de ceux que tu admires n'ont pas. Je t'ai moi-même établi là où tu es afin de contribuer à l'avancement et à l'épanouissement de mes enfants, à leur croissance spirituelle. C'est là où tu es que je t'ai placé et que je te donne la possibilité de me servir. Ne cherche pas, mon serviteur, à t'en aller. Tu es exactement à l'endroit où je te veux pour le moment. Et personne d'autre ne pourra faire le travail que je t'ai confié à toi. Reste rempli de mon esprit et tu verras mon œuvre se faire et prospérer sous ton regard. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quand nous te servons là où tu nous as placés, nous n'avons pas à chercher à aller ailleurs. Tu veux par contre que nous persévérions là où tu nous as placés. Que nous ne nous décourageons pas. Mais que nous allions de l'avant fidèles à la tâche que tu nous as confiée. Et maintenant, un autre serviteur de Dieu que le Seigneur appelle à prendre, lui, par contre, une nouvelle direction. À défricher un nouveau champ. Mon serviteur, te dit le Seigneur, je t'appelle à rechercher intensément ma face, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Je t'encourage à laisser ce qui est derrière toi, à cesser de penser aux événements passés, à ne plus considérer toutes ces anciennes choses qui se sont déroulées dans ta vie ces dernières années. J'ai préparé, te dit le Seigneur, pour toi un nouveau champ d'action dans lequel je désire t'envoyer. Laisse-moi te conduire par la main sur ce chemin que j'ai moi-même préparé pour toi. Ne crains aucune opposition qui pourrait se dresser sur ton chemin. Si je suis avec toi, que pourraient te faire les hommes ? Toute résistance des hommes sera brisée. Je te frayerai moi-même un chemin sur ce terrain jonché d'impossibilités. Si je l'ai fait pour mon peuple afin qu'il traverse la mer Rouge, je peux le faire pour toi, mon serviteur. Ma force sera ta force et rien ne pourra m'empêcher d'accomplir ma volonté pour toi. Courage, mon serviteur. Je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia, Seigneur.
Alléluia.
Tu durcis le front de ce serviteur-là.
Amen.
Afin qu'il ne se laisse pas arrêter par les hommes. Qu'il aille de l'avant. Malgré l'opposition. Malgré les contradictions.
Oh, gloire.
Malgré les barrages que les hommes en veulent mettre sur sa route.
Alléluia.
Je suis l'Éternel qui est avec toi et je marche devant toi, te dit le Seigneur. Va de l'avant, mon serviteur. Ne crains ni Pierre ni Paul, personne, mais crains surtout de me déplaire et de faire autre chose que ma volonté, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Amen.
Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va encore étendre sa main sur 2-3 malades au milieu de nous. Le Seigneur pose sa main sur une personne qui a un problème de sang avec les plaquettes du sang. Il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec tes plaquettes. Et le Seigneur pose sa main sur toi et régularise ton sang. Merci Seigneur pour cette personne que tu touches. Tu es le divin médecin qui connaît le sang, ses possibilités, ses infirmités. Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes les infirmités de ce monde. Seigneur, merci Seigneur. Et si médicalement il n'y a pas de solution, lui, il est le grand médecin, le créateur de tes cellules, des cellules de ton sang. Reçois l'attouchement du Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre d'eczéma entre les orteils. C'est très gênant et c'est parfois douloureux. Seigneur, merci de poser ta main sur cette personne-ci. Et que cet eczéma sèche au nom et par la puissance de Jésus. Nous, je te loue, Seigneur, de ce qu'il n'y a rien de trop petit, rien d'insignifiant, que tu ne veuilles toucher ou régulariser. Tu es le Créateur parfaitement équilibré et qui veut l'équilibre de notre organisme. Rien n'est trop petit pour toi pour agir. Rien n'est trop grand non plus. Merci Seigneur. Une personne qui est touchée au pied droit. Tu as une douleur, constamment une douleur dans ton pied. Elle revient, elle s'en va, et elle revient, elle s'en va. La main du Seigneur est sur toi. Reçois son attouchement. Et cette douleur s'en va définitivement de ton pied droit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, loué sois-tu. Merci Jésus. Et une dernière personne. Tu as dernièrement fait, tu as eu un problème cardiaque. Le Seigneur contrôle maintenant tes pulsations. Il contrôle les battements de ton cœur. Parce que c'est lui qui a créé ton cœur. Alors il sait où ça ne va pas. Et il pose le doigt exactement là où il faut. Exactement là où il faut. Alléluia. Merci Seigneur. Pour que tout se remette en place. Merci Seigneur pour ta présence. Pour ta puissance. Louange à toi Jésus. Levons-nous dans la présence du Seigneur maintenant. Rendons-lui gloire. Et donnons-lui,
Seigneur.
À celui qui nous.
Oh, merci Seigneur.
Inclinons-nous devant lui. Remercions-le pour tous ses attouchements.
Alléluia.
Qu'il a donné ici.
Tu es merveilleux.
Oh, loué, 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 loué. Alléluia.
Alléluia. À Dieu soit la gloire. Nous allons terminer cette convention en donnant toute la gloire à notre Dieu. Amen.
Alléluia.
Tout ce que nous pouvons faire.
Alléluia.
C'est par grâce qu'il agit au milieu.
C'est vrai.
Et nous voulons lui dire merci.
C'est vrai.
Et avant de nous séparer, lui donner encore une fois toute la gloire. À Dieu soit la gloire. C'est lui qui a payé le prix pour que nous soyons bénis. C'est lui qui a payé le prix. Ce n'est pas nous, ni vous. C'est lui, c'est Jésus. Alors donnons-lui toute la gloire. Toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu, donne toujours, toujours la gloire.
Jesus. Encore une fois, à Dieu soit la gloire.
À Dieu.
auquel j'ai adressé un appel particulier ne part pas sans prendre la décision que j'attends de toi. De me livrer toute ta vie.
Alléluia.
Et tout ira tellement mieux dans ta vie.
Alléluia.
Quand tu m'auras tout livré. C'est ce que j'attends de toi.
Amen. Amen.